Nous, ce qui nous intéresse, c'est toutes les réalités troubles, tous les mondes de l'entre-deux.
Benoît Peters, philosophe, disciple de Roland Barthes, il s'essaie à tous les genres artistiques.
La bande dessinée, c'est vrai que c'est déjà une forme d'expression assez hybride. Et c'est dans cette chose assez étrange qui mélangeait texte, dessin, que nous, on a été heureux.
François Squitton, une famille d'architectes, il tombe très tôt dans la marmite du dessin.
C'est Vertigo jusqu'à 18h.
Artiste touche à tout, influence multiple à l'œuvre dans les cités obscures.
Ils sont nos invités, François. Alors, Squitton ou Skuyten?
C'est un grand débat. En Belgique, on dit Skuyten, mais en France, on dit Schuyten.
Schuyten, voilà, mais on va le prononcer donc à la belge. Ça oui. Paraît plus logique. François Skuyten au dessin, Benoît Peters au scénario. Donc demain, en conférence à 18h à la Maison d'ailleurs à Yverdon, à l'occasion de la parution du troisième livre de l'intégrale des Cités Obscures. On va rappeler peut-être ce que sont ces Cités Obscures, parce que c'est une expression au fond qui est rentrée aujourd'hui dans le langage courant. On connaît toutes et tous les couvertures des BD, on a tous vu les affiches, particulièrement à Lausanne pour des raisons qu'on expliquera tout à l'heure, et à Porrentruy également. Mais l'histoire des Cités Obscures, d'où vient-elle? Parce qu'au fond, c'est une série qui est à la fois dans le présent, à la fois dans l'anticipation, qui utilise des éléments du présent que l'on projette dans le futur. C'est, on le dit, rétro-futuriste. Vous avez peut-être un autre avis sur la question?
Pour nous, c'est d'abord une histoire d'amitié. C'est une longue collaboration. On a commencé à réfléchir au premier album, Les Murailles de Samaris, au tout début des années 80. L'histoire est parue d'abord dans À suivre, puis sous forme d'album. Et on était déjà très heureux d'explorer deux villes imaginaires. Xistos, une ville Art Nouveau, et puis Samaris, une cité lointaine vers laquelle notre héros se dirigeait. Dont il aurait bien du mal à revenir. Et quand on a fini cet album, on n'avait pas envie de reprendre le héros, le pauvre héros qui était tout consumé par l'histoire, mais on avait envie de continuer à faire quelque chose ensemble. Et donc, on a imaginé une autre ville dans le même monde. Et petit à petit, un peu comme des explorateurs, nous avons parcouru cet espace en l'agrandissant, parcouru aussi le temps, puisque avec le troisième album, La Tour, on plongeait dans les racines de ce monde. Et au fond, nous le découvrions un peu comme des voyageurs. Alors maintenant, avec l'intégrale des Cités Obscures, qui fera 4 gros volumes, qui rassemble non seulement les albums BD, mais plein de choses autour, on a l'impression d'un monde très structuré, comme si nous avions eu la connaissance complète de ce monde. Non, nous l'avons découvert juste un peu avant nos lecteurs, et on a essayé d'y croire pour que nos lecteurs y croient eux aussi.
L'idée de départ, elle vous est venue en pleine période où la BD s'interroge beaucoup sur ce que sera l'avenir de l'homme et de la planète. On est en pleine époque, un peu sur la fin de Tintin, de la ligne claire belge. Vous avez cité À suivre, on pourrait parler de Métal hurlant également. Il y a toute une nouvelle génération de dessinateurs et de scénaristes de bande dessinée qui arrivent à ce moment-là sur le marché. Et votre série, aujourd'hui, on se rend compte qu'elle tranche radicalement avec ce qui se faisait à l'époque.
Enfin, elle tranche, en même temps, elle est effectivement dans un courant, dans un mouvement. On a l'impression qu'il y a des portes qui s'ouvrent, qu'il y a un vent frais qui brusquement souffle, parce que on abandonne un petit peu, on s'éloigne, étant belge, en plus, Benoît vivant en Belgique, moi étant belge, on s'éloigne un petit peu de la bande dessinée franco-belge, qui a été autant magnifique, était rayonnante, mais qui, dans les années 70-80, s'épuise un peu. Des auteurs comme Franquin, des regards d'ailleurs et comment ça. Et on regarde beaucoup plus, nous, du côté français, où à Paris, il y a la création de Métal hurlant et où le journal À suivre va avoir sa rédaction, même si les éditions Casterman sont franco-belges, je dirais. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'il y a là quelque chose qui se passe, une ambition romanesque pour À suivre, science-fiction, rock pour Métal hurlant. Et on a l'impression que tout est possible. C'est ça qui est formidable dans cette période-là, c'est que on a l'impression que le territoire est sans limite. Et les liens avec le cinéma, puisque Métal hurlant est très très relié à des réalisateurs comme Radley Scott, comme on voit passer Caro et Genet, qui vont faire de leur côté du cinéma aussi, ou des chanteurs comme Kent. Et donc il y a une espèce de mixité dans les formes et dans les croisements, et qui donne le sentiment qu'on peut explorer. Et c'est vrai que là, Les Cités Obscures, c'est une exploration, Benoît l'a dit, graphique, au niveau des formats, des objets. Chaque album est différent, il est une fois en noir et blanc, une fois en couleur. Et donc, il y avait ce côté de s'aventurer, de chercher un petit peu le plaisir de retrouver peut-être sans doute l'émotion qu'on a eue en lisant Tintin, mais dans le monde des années 80.
Ce qui me frappe en replongeant dans ces bandes dessinées, je les ai pas toutes relues, je les avais pas toutes d'ailleurs, il y en a vraiment beaucoup, mais ce qui me frappe, c'est à quel point quelque part il y avait une forme d'anticipation de votre part, notamment sur la manière dont fonctionnent les pays aujourd'hui, avec des villes qui sont devenues des villes-états dans votre série. Paris est devenue une ville-musée, par exemple, et il se trouve qu'aujourd'hui on assiste à ce que l'on appelle la gentrification. On se rend compte que les villes deviennent des villes-musées également, qu'elles sont quasiment mises sous cloche. On y va, mais même d'ailleurs plus du tout pour la culture, mais pour y faire des achats. Enfin, il y a quelque chose dans vos travaux qui fait penser fortement à ce que nous sommes en train de vivre finalement aujourd'hui.
Nous avons toujours travaillé sur des métaphores. Et ces métaphores, il fallait qu'elles circulent entre nous, qu'elles nous parlent, qu'elles nous donnent l'impression qu'elles étaient suffisamment fortes pour nous porter pendant les 2 ou 3 années de réalisation d'un album. Alors on part sur une idée, et certainement qu'elle est en résonance avec ce qui se passe autour de nous, et parfois elle devance légèrement la chose. Vous parliez de Paris et du péril de la muséification que beaucoup de villes connaissent, mais par exemple quand on a fait La fièvre d'Urbicant, une de nos premières histoires, peut-être celle qui nous a vraiment fait connaître, on pensait à Berlin. Berlin était à l'époque une ville coupée en deux. Puis on a ce phénomène d'un cube qui grandit, d'une structure qui devient un réseau qui envahit l'ensemble de la ville. Aujourd'hui,
et qu'on ne peut pas détruire.
Et qui ne peut pas être détruit. Un cube d'une matière à une structure inconnue qui se développe à perte de vue dans la ville et puis bien au-delà de la ville. Aujourd'hui, Berlin n'est plus coupé en deux, mais le phénomène des murs et des villes coupées, il est toujours là, plus que jamais. Et les images que nous avions en pensant à ce réseau qui se développait, c'était bien sûr pas Internet, qui n'existait pas alors. Mais aujourd'hui, pour un lecteur, c'est évident que ce réseau, à la fois matériel et immatériel, qui se développe, qui crée des ponts, qui crée aussi des impasses, des complications, dont on ne peut plus se passer.
Et qui disparaît.
Et qui finit par disparaître. Voilà, on le lit comme une métaphore. Alors, c'est ça, peut-être, la chance d'une histoire, et c'est quelque chose d'un peu... impossible à programmer pour des auteurs. C'est espérer que l'image qui nous parle, que la fable qu'on raconte puisse être lue. Et quand nos albums sont aujourd'hui traduits en Chine, par exemple, on se dit ils doivent être lus tout autrement par les jeunes Chinois d'aujourd'hui qui n'ont pas cette tradition de la BD, mais on espère qu'ils leur parlent quand même.
L'avantage de vos bandes dessinées, c'est qu'au fond, elles n'ont pas d'ancrage temporel. Elles se situent dans un temps qui n'existe pas, donc on peut la lire à n'importe quelle période.
C'est très bizarre parce que tout ça n'était pas vraiment programmé. Je sais seulement que Benoît et moi, quand on était assez jeunes, on ne voulait pas avoir de héros. Et donc, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on a décidé que chaque livre devait avoir son autonomie. Et donc, c'était l'univers qui allait être l'identité de cet ensemble. À partir de ce postulat qui, en définitive, je me demande si on l'a vraiment décidé, d'ailleurs. Ça s'est vraiment enchaîné comme ça. C'est vrai qu'on se retrouve devant ces principes.
Lynn.
Est-ce que le dessin libère l'imaginaire? Est-ce que le fait de faire fait que vous pouvez aller bien plus loin que peut-être le progrès qu'on connaît dans la vie réelle?
Alors, ce qui est très intéressant avec le dessin, c'est que parfois, le dessin est plus intelligent et a sa propre logique et sa propre capacité à avancer, comme une histoire d'ailleurs, qui à un moment donné, vous dépasse. Et le dessin lui-même, quand on le travaille énormément, quand on s'obstine vraiment à creuser, il y a des choses que vous ne dirigez pas.
Comme peut-être aussi l'écriture.
Oui, bien sûr. Et puis il y a surtout la magie particulière de la collaboration. Parce que parfois, on a une représentation un petit peu restreinte de la bande dessinée. On croit qu'il y a un scénariste d'un côté qui écrit une histoire et puis un dessinateur qui l'illustre. Dans notre cas, c'est d'abord un monde rêvé. Et ce monde rêvé, il faut qu'on le voit avec deux paires d'yeux, mais d'une certaine façon, un seul regard. C'est-à-dire qu'on le voit jusque dans les détails, dans le système politique, mais dans l'architecture, dans la décoration, dans les comportements des personnages, qu'on le voit de la même façon. Ça, c'est vraiment très, très important. Et ça nous a entraîné chacun, peut-être, hors de notre terrain. D'ailleurs, on s'est un petit peu échangé les références. Moi, je venais d'un monde plus littéraire. Et j'ai fait partager à François des livres, il se trouve que nous avons aimé les mêmes auteurs, des classiques comme Jules Verne, mais aussi Kafka, Borges et Italo Calvino et bien d'autres. Et que François, qui était une famille d'architectes, à travers cette culture-là, m'a fait mieux comprendre certains phénomènes de la ville, de l'architecture, de l'intelligence d'un bâtiment. Le bâtiment peut devenir un personnage, comme dans la tour. Et ça se fait au fil des ans. Je dirais, on a partagé non seulement nos imaginaires, mais nos bibliothèques, nos références. Des références que le lecteur n'est pas obligé de connaître ou d'identifier, mais qui probablement nourrissent les histoires et les font plonger un peu plus loin. Au fond, nous travaillons surtout, et c'est pour ça que c'est peut-être bien de faire cette intégrale des cités obscures, nous travaillons surtout pour ceux qui relisent, qui regardent à nouveau, qui s'arrêtent sur une image, qui découvrent un détail qu'ils n'avaient pas vu la première fois.
Il y a une chose, moi, qui me frappe aussi, puisque là, vous parlez de bâtiments et d'architecture, et pourtant, très souvent, vous dites, mais l'architecture n'est pas le véritable héros de nos histoires. Et vous avez passé beaucoup de temps à vous défendre de cela.
Oui, surtout moi.
Parce que c'était l'étiquette qui te collait à la peau.
Oui, ça me colle à la
l'architecte
peau.
De la famille d'architectes.
Ça m'agace très, très fort. Je devrais accepter, mais je n'arrive pas, manifestement. Je résiste. Oui, parce que c'est un petit peu simpliste. Alors maintenant, les étiquettes, c'est intéressant parce qu'à la limite, déjà, vous en avez une, parce que c'était mieux parfois d'en avoir
que pas du tout.
Avoir du tout, absolument. Ouais. Mais c'est très réducteur. Et en fait, je crois que notre travail essaye de chercher autre chose. Il cherche à cerner un système, un monde, un climat, des rapports entre l'homme et ce qui l'entoure. Mais pas spécialement l'architecture, pas l'histoire de l'architecture. Même si c'est un très bon outil, l'architecture.
Bien sûr, oui.
C'est ça qui nous intéresse.
Ce sont des mondes en crise, ce sont des personnages en crise. Et je crois que c'est ça que nous essayons de faire à travers les lieux comme à travers les histoires, de raconter des processus de mutation heureuse ou malheureuse et que le lecteur finalement les ressente vraiment. C'est pas de l'épater, c'est pas de l'intriguer simplement par des choses extraordinaires, c'est de rendre cet insolite, ce fantastique très proche de lui. Et chaque fois, nos récits sont portés par une sorte de voix intérieure qui vient nous dire à nous, auteurs, mais au lecteur aussi, mais qu'est-ce qu'on ferait dans cette situation-là? Comment on se comporterait? Si votre fille tout d'un coup était penchée à 30 degrés et que ce n'était pas une simulation, que vraiment elle était penchée, comment on réagirait? C'est un début de fiction.
Absolument.
Pour sortir presque de la fiction et revenir dans la réalité, est-ce qu'on peut se dire que peut-être ce à quoi on assiste aujourd'hui à Paris, à cette violence, est-ce qu'on peut aussi y voir le résultat peut-être d'une mise à l'écart, peut-être géographique, ce centre et cette périphérie qui s'éloignent de plus en plus dans les villes? Est-ce qu'on peut voir ce résultat-là de physique sur les hommes?
Sur la question de Paris, oui, certainement. Paris est malade de la centralité, malade de la coupure entre les 20 arrondissements et la périphérie. Les gens qui vivent à 20 ou 25 kilomètres n'arrive pas à se sentir pleinement parisien, ni symboliquement, on ne les, c'est les banlieues, les quartiers, les machins, ni pratiquement, parce que souvent c'est une difficulté d'atteindre le cœur de la ville, de se déplacer. Là, il y a vraiment des choses qui sont des thèmes que nous ne pouvons traiter qu'indirectement. On n'est pas là pour faire la leçon, pour donner la leçon, mais peut-être comparer des modèles urbains et voir que même dans les grandes villes d'Europe, toutes ne fonctionnent pas sur cette façon-là. Berlin et Paris, par exemple, ont deux modèles de développement totalement différents.
Il y a un État fédéral d'un côté et un pays très centralisateur de l'autre également. Donc peut-être que ceci...
Et une architecture radicalement différente.
Ouais. Et une histoire.
Une histoire
profondément différente. Voilà, mais Paris aura besoin de se réinventer. Le Grand Paris, pour l'instant, ce n'est qu'un mot, ce n'est qu'une formule incantatoire, et certainement ça devra un jour devenir une réalité. Et ce fameux périphérique qui encercle Paris comme les anciennes murailles devra un jour, même si c'est compliqué, disparaître.
Mais dans Revoir Paris, la fameuse coupole, cloche de verre qui enferme le cœur de Paris, c'est vrai que c'est un sentiment qu'on peut avoir. Ce qui est intéressant, c'est de le dessiner et de voir comment il peut trouver sa crédibilité et quelque part... Alors, ça interroge évidemment le réel, ce qui est toujours un petit peu la fonction pour moi d'un livre, c'est de voir comment il questionne, il bouscule notre monde.
Les villes aujourd'hui, elles sont très malmenées au fond, parce qu'on a envie qu'elles changent. Il y a une densification nécessaire à apporter dans les habitats. Dans beaucoup de vos villes, ce sont des villes verticales avec de très grands immeubles. On sent bien qu'il y a une logique derrière tout ça. Et puis, vous avez un attachement particulier pour certaines villes un peu bizarres, comme Bruxelles ou Lausanne. On a beaucoup parlé de bruxellisation, c'est-à-dire le fait de raser des quartiers historiques entiers pour y planter des tours au mépris de l'histoire et surtout de du bien-être de ses habitants. Vous avez une affection particulière malgré tout pour ces villes ?
Mais Bruxelles est intéressant parce que c'est une ville assez brouillée, assez chaotique, avec des aspects absolument magnifiques, préservés, art nouveau, sublimes. Et puis d'autres moments, des contrastes saisissants, où on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Et dans la question qu'est-ce qui s'est passé, c'est évidemment une façon d'introduire de la fiction. Parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, il n'y a pas quelqu'un qui a imaginé un projet aussi stupide, aussi fou, aussi irrationnel. Et donc, pourquoi avoir démoli ça ? Pourquoi ? Et donc, c'est vrai que la fiction est comme pour... retisser un lien avec un monde qu'on ne comprend pas.
Nous ne sommes ni dans l'utopie, ni dans la contre-utopie, mais vraiment dans quelque chose qui essaye de réintroduire de la complexité, ouais. De créer ces villes qui sont elles-mêmes toujours tendues, prises dans une difficulté particulière. On aimerait bien parfois dire « Ah, dessiner la ville idéale, la ville où vous voudriez vivre ». Mais cette ville idéale pourrait très vite devenir étouffante, ce qui est un peu le cas de toutes les utopies trop pensées comme telles. Souvenons-nous de la cité radieuse de Le Corbusier, qui n'est pas toujours aussi radieuse.
De son projet pour Paris.
Projet pour Paris.
Voisin qui consistait à peu près à raser la ville pour mettre que des tours. Enfin voilà. Mais c'est vrai qu'il y a cette question du passé dont on doit souvent faire table rase. Alors pourquoi cette affection particulière également pour Lausanne ? Alors, pour Rontruy.
Ce qui était très amusant dans le...
Lausanne, je comprends un peu déjà, si on compare avec Bruxelles.
Mais... Dans le début des Cités Obscures, c'est qu'à chaque exposition, on faisait un peu plus que l'exposition. On dessinait la ville et on gardait quand même une empreinte, une mémoire. Et le plaisir, c'était de l'inscrire dans notre cartographie personnelle de ce monde, des cités obscures, et puis aussi, ça participait à notre façon d'être explorateur de notre monde.
Tu as fait un Port-Rontruy tout à fait vertigineux qui surmonte un véritable gouffre, et c'est vrai qu'on... Je me souviens de cette conférence fiction qu'on avait présentée il y a beaucoup, beaucoup d'années, c'était assez au début de la série, et... On avait l'impression que toute la ville était là. On avait rarement eu autant de public. Et donc, on a gardé aussi cette trace de cet accueil extraordinaire qui nous avait été proposé. C'est d'ailleurs dans cette ville de Port-Rontruy, après la rencontre, qu'une question d'un auditeur a fait bifurquer la série. Je ne sais pas si tu t'en souviens, François, mais quelqu'un a dit « Oui, vous citez vos références, etc. mais vous ne parlez quand même pas d'un personnage essentiel qui a eu une marque très grande dans les cités obscures, Axel Wappendorf. » Et on dit... Axel Wappendorf n'existait pas dans les cités obscures. Et on dit, oui, vous avez parfaitement raison, nous n'avons pas encore eu l'occasion d'en parler. Et puis le lendemain, en rentrant, on dit à François, qu'est-ce qu'on va faire de ce... On se dit, qu'est-ce qu'on va faire de ce Wappendorf qui est devenu le savant, le scientifique qui traverse plusieurs de nos histoires, qui est une sorte spécialiste des phénomènes paranormaux. Et bien voilà, il est né de Port-Rontruy. Vous voyez, donc on se nourrit aussi non seulement de lieux, mais de rencontres avec les gens, de bribes de dialogue, de choses qui arrivent. Et cet univers, il est poreux. C'est pas un univers, justement, qu'on aurait voulu bâtir avec un grand plan. Oui. C'est plutôt un univers qui s'est fait de ce que nous étions, de ce qu'était le monde autour de nous et parfois de
comme hasard. Cette ville qui grandit, en fait, et dont on ne peut jamais atteindre les limites.
Oui.
Dans votre série.
Oui, et puis c'est l'idée d'être, comme le dit Benoît, assez réceptif, assez avoir envie de saisir. La réalité est toujours plus incroyable que la fiction. Je me rappelle aussi à Port-Rontruy, c'est pas là où il y a un moment donné, on a utilisé les tuyaux à gaz pour y mettre
la téléphonie.
La téléphonie. Oui. Et du coup, la personne aurait sans doute défait l'accord sur le gaz pour pouvoir profiter. Bon, c'est des histoires tellement formidables. Et on se dit, tiens, ça, c'est un début de fiction. C'est un morceau de récit qu'on a envie de prolonger.
On ne va plus jamais pouvoir revenir à Port-Rontruy.
Au contraire, c'est une source d'inspiration. Ben oui. Comment on fait pour ne pas devenir complètement cinglé entre ces deux mondes, entre l'imaginaire et la réalité? Comment on vit comme ça, un pied dans chaque monde?
On ne vit pas tous régulièrement dans l'imaginaire, que ce soit un imaginaire mémoriel ou un imaginaire prospectif, qui n'est pas toujours d'ailleurs, par les temps qui courent, très, très heureux, très gratifiant. Donc, entrer dans ces mondes, c'est effectivement y croire, mais jusqu'à un certain point. Et je me souviens, au début, on recevait parfois des lettres de lectrices et de lecteurs, surtout parmi les jeunes, qui étaient un peu inquiétantes, parce qu'on avait l'impression qu'ils prenaient tout pour argent comptant et qu'il n'aurait pas fallu grand-chose pour basculer dans une espèce d'église de scientologie,
oui,
l'obscurologie, une secte. Avec des adeptes. Bon. Or, pour nous, il y a quand même cette corde raide qui est là. y croire le temps de la lecture, y croire peut-être parce que ça résonne avec le monde, et en même temps garder cette petite distance. Donc jusqu'à présent, nous ne sommes pas tout à fait fous. Vous savez, à la fin de sa vie, Maurice Leblanc a appelé la police en disant qu'il était victime des agissements d'Arsène Lupin, qui le harcelait, etc. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là, mais peut-être que dans quelques années, vous nous réinviterez, que vous verrez deux hallucinés qui croient vraiment à que tout ce qui s'est passé dans leur monde
est arrivé. Ouais, Maurice Leblanc, qui était l'auteur de la série Arsène Lupin, effectivement. Malgré tout, est-ce que parfois vous avez une lecture, une lecture politique de vos œuvres, de vos travaux?
Disons que c'est vrai qu'on a été troublé par le fait que les livres sont tellement, comment dire, on est tellement dedans, ils nous dépassent un peu par certains côtés, on ne sait pas toujours. Quand on commence une histoire, Benoît et moi, on a certaines convictions, on a une architecture globale du récit, mais il y a beaucoup d'aspects qui sont encore mystérieux. Et c'est ce qui nous donne envie de passer 3-4 ans sur un livre. C'est de ne pas l'avoir totalement fabriqué, bien au contraire, c'est de laisser grandir. Et donc, il y a beaucoup d'aspects qui, par certains côtés, nous surprennent quand on le termine. Parce qu'on dit, tiens, ça nous a amené dans telle direction, ce qui n'était pas tout à fait notre idée. Et c'était la belle surprise du récit.
Et c'est le sens, d'une certaine façon, qui se révèle dans l'après-coup et qui souvent se révèle à travers la critique ou les lecteurs.
Je pensais à la frontière invisible, en fait. La frontière invisible, tome 1 et 2, dans lesquels c'est un livre qui a été... Enfin, les deux ont été écrits à la fin des années... début des années 2000, je crois. Et en fait, vous évoquez le réveil des nationalismes, les questionnements autour des frontières, les rétablir ou pas, etc. Quand on lit ça aujourd'hui, ça résonne quand même vraiment très étrangement.
C'était là, ça l'est encore plus, ça se transforme. Et c'est vrai que, par exemple, nous sommes d'une génération qui a connu l'effondrement du mur de Berlin et qui s'en est réjoui et qui n'imaginait pas à l'époque que des murs plus nombreux allaient se développer un peu partout. Le monde des cités obscures est un monde de ville, c'est un monde où la notion de pays est moins fréquente, mais il y a malgré tout dans la frontière invisible cette idée d'un pouvoir expansionniste, de l'utilisation de la cartographie pour conquérir des territoires, pour réécrire l'histoire. Bon, ce sont des choses qui résonnent. Alors, nous ne sommes pas non plus complètement innocents, mais il faut accepter une part d'inconscient et d'inconscience au moment où on écrit. Et c'est très curieux parce que quand les idées rebondissent entre nous, j'écris un peu, François fait un croquis, on cherche, on voit des documents, on les parcourt, on se sent comme guidé. C'est une sorte de radar qui nous dit « oui, ça c'est bien dans l'histoire ». Mais si on était en train de se dire « mais qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Mais qu'est-ce qu'on est en train de raconter ?» Je pense que l'inhibition arriverait très vite et qu'on commencerait à dire « non, c'est bon, on peut pas faire ça ». Donc, c'est un mélange bizarre et je pense que le fait de travailler à deux, chacun est un peu à la fois le garde-fou de l'autre et peut-être le fou. Donc, à tour de rôle, comme ça, on s'entraîne, on se laisse emporter par une image bizarre, intrigante et séduisante.
Ce qui est très, très curieux, c'est qu'on s'est connus à l'âge de 12 ans, donc on a travaillé tout de suite à faire un journal ensemble et on travaillait un peu de la même façon à 12 ans. Et avec les mêmes préoccupations qu'aujourd'hui.
C'était en 1968, d'ailleurs, vous voyez que la dimension politique était déjà là, très forte. Nous avions une analyse puissante de la situation à l'âge de 12 ans dans notre collège catholique.
Mais ça fait rêver,
bah oui,
une collaboration.
Absolument, depuis si longtemps.
Vertigo, Pierre-Philippe Cader.
Et en compagnie de Lynn Lévy, vous avez une question de toute première importance, Lynn, que vous avez gardée pendant au moins un quart d'heure.
Absolument. J'avais l'impression que... j'ai retenu. J'avais l'impression que 1 plus 1 chez vous faisait 1 et un autre, un nouveau vous, un troisième vous.
Oui, c'est vrai que c'est une bonne question parce que, en fait, on cherche à essayer de former un auteur et de ne pas sentir qu'il y a une conception du scénario et une conception du dessin. Pour nous, la bande dessinée, c'est vraiment un langage, c'est une écriture. Le dessin est une écriture, comme le texte, tout doit participer de la même main. Et donc, on cherche le moment où, justement, on ne sait pas qui a fait quoi. Le dessin comme le texte font partie de la même matière.
D'ailleurs, on vous confond souvent. Enfin, moi, j'ai posé la question dans les couleurs aujourd'hui. Ah non, c'est lui. Non, c'est l'autre. Non, c'est lui. Non, c'est l'autre.
Oui, enfin, d'ailleurs, les prénoms disparaissent. Oui. Et Skeuten Peters devient une sorte d'entité. Schwitten Peters. C'est un seul être sans prénom. Et au fond, les cités obscures sont une identité.
Oui.
Les cités obscures sont peut-être une entité plus forte.
Ouais.
davantage importante à mémoriser que le nom des auteurs qui peuvent chacun avoir leur vie, leurs activités de leur côté. Il nous arrive de faire des livres et des projets chacun de notre côté. Mais quand on travaille ensemble, c'est vraiment cette idée de ne pas chercher, par exemple, quelle est la part de l'un, quelle est la part de l'autre. Une petite question sotte qui intéresse beaucoup de gens. Bien sûr, le dessin est fait par François, les textes sont faits par moi, mais le reste, l'histoire, les personnages, le climat, la mise en scène, la mise en page, c'est tantôt l'un, tantôt l'autre. C'est quelque chose qui circule et qui est là. Et vous savez, parfois une idée, elle rebondit dans une discussion et vous ne savez même pas qui a eu l'idée, parce qu'au début, c'était très peu de choses. Et puis on répond, ah oui, mais alors, ceci, eh ben oui. Et de fil en aiguille, comme ça, par rebond, on arrive à une idée qui a un sens, qui a une force, alors que peut-être le petit germe était très peu de choses.
Est-ce que vous êtes aujourd'hui très courtisé par les urbanistes, les politiques, les architectes, que sais-je ? Est-ce qu'on vous pose des questions sur la ville du futur ? Parce qu'il y a beaucoup d'angoisse sur les villes aujourd'hui qui agglomèrent de plus en plus de monde. Et je ne parle pas de l'Europe, où c'est encore à peu près tenu, on va le dire. Mais dans d'autres pays du monde, on ne sait même plus s'il y a 15 ou 25 millions d'habitants dans certaines villes. C'est impossible de le savoir. Est-ce qu'aujourd'hui, on vous approche, on vous pose des questions, un peu comme si vous étiez... Vous évoquiez une secte tout à l'heure, mais un petit peu des visionnaires et des gourous d'une certaine manière.
Alors, on n'est pas des visionnaires ni des gourous, mais ce qui est certain, c'est vrai qu'on est beaucoup approchés, d'une façon d'ailleurs très curieuse, parce que je me rends compte que ce qui intéresse les gens chez nous, c'est le récit, en fait. C'est-à-dire comment on raconte, comment l'image raconte, et comment, en fait, ce qui, moi, me passionne quand je discute avec les architectes dans plein de domaines, c'est de voir où mettre le récit. Parce que je pense que dans une bonne architecture, il y a un récit. Mais pas au sens où on l'entend. Et c'est très, très souterrain. Mais ça raconte. Et ça raconte beaucoup de choses. Et je vois des architectures qui, par contre, ne racontent rien. Et c'est ça qui est intéressant. C'est de voir comment, justement, on tire ce fil-là. J'étais dans un bureau d'architecture et je voyais leur rendu. Et je leur disais, mais c'est terrible. Les gens qui sont dans vos perspectives ne racontent rien, s'ennuient, sont vides. Les ciels sont vides. Et curieusement, il y avait un rendu qu'ils ont exposé qui était très différent. Et là, il y avait une vraie fiction et une vraie force. Et tout le monde regardait cette image-là. Et c'était très étonnant de voir comment on sous-estime la puissance du récit.
Oui, par exemple, dans les modèles d'urbanisme, que ce soit les maquettes ou quelquefois les représentations, on voit les personnages, ils sont là pour donner l'échelle. Oui. Mais nous, dans une histoire, on ne peut pas avoir un personnage qui est là pour donner l'échelle. On est obligé de voir le lieu sous tous les angles, de le pénétrer, de vivre avec ce personnage, de voir comment il va interagir, rencontrer d'autres personnes. Et d'emblée, l'espace se transforme. Et si on a cette représentation en surplomb, cette ville vue d'avion dont parlait Le Corbusier, on est loin de cette préoccupation-là. On se préoccupe d'une harmonie qui, par exemple, ne sera jamais vue par l'habitant. On dit, ah, mais cette rue-là, elle n'est pas dans le bon alignement. Mais en réalité, quand vous êtes dans la ville, quand vous vous baladez dans la ville, quand vous avez, comme à Lausanne, des déclivités fortes, etc., vous ne percevez pas l'alignement. Vous percevez, au contraire, le charme, les complexités, comme dans une maison, etc. Et ça, une histoire de bande dessinée nous oblige à le raconter. Nous ne faisons pas des grands posters. Nous racontons vraiment une histoire, fragment par fragment, en composant un espace qui va exister dans la tête du lecteur, de même qu'une ville, elle existe pour nous, avec toutes les couches de mémoire, tous les trajets que nous avons faits, toutes les impasses, les transformations, la mémoire de lieux qui ont disparu. C'est ça qui forme l'image d'une ville, et c'est peut-être ça qu'on arrive à ressusciter à travers nos histoires.
Et les lieux qui ne servent à rien, les espaces inutiles, et qui pourtant qui sont si nécessaires.
Bien sûr.
Et c'est, ce qui est très intéressant avec le dessin, c'est justement qu'il oblige, qu'il interroge ça. Et le danger, évidemment, d'abandonner le dessin en architecture, c'est d'abandonner cette dimension.
Vous voulez dire de ne passer que par l'image informatique, par exemple ?
Oui, depuis... même s'il y a des... Je pense qu'il faut se méfier d'être trop simpliste et qu'il y a des dessinateurs qui travaillent l'informatique avec beaucoup, beaucoup de talent. Mais il est évident que ce qui passe par la main a une émotion, est à la dimension humaine naturellement, sans se poser la question, puisqu'il est repris par le geste. Et c'est ça qui fait d'ailleurs la beauté des architectures qui ont été dessinées. Et longtemps dessiné, pensé et dessiné.
Et puis sur la ville, il y a des questions de fond à se reposer. Par exemple, à l'ère du télétravail, à l'ère aussi des difficultés écologiques et climatiques que nous connaissons tous, quelle sera la fonction des villes? Quelle est l'échelle juste d'une ville? À quel moment ça devient un agglomérat, une conurbation du périurbain, comme on le dit quelquefois, et plus de la ville? En France, par exemple, on voit le paysage être ravagé par ces zones commerciales aux abords des villes, qui ne sont ni de la nature, ni de la ville, qui sont du rien, qui sont de l'espace de parking, de l'espace résiduel, en même temps qui vident les centres-villes de leur sens. Et je crois que là, il y a des questions fondamentales à se poser. On ne peut pas continuer à se dire les villes grandiront, les mégapoles grandiront. Peut-être qu'une immense ville gagnerait à se penser comme un ensemble de villes reliées, mais qui ont chacune un centre, et non pas de se penser dans une structure d'étoiles par rapport à un seul centre et à des avenues qui y mènent. Bon voilà, ce sont des réflexions auxquelles il faudrait prendre un peu de recul. Hélas, le temps du politique, le temps de l'entrepreneur, le temps de l'investissement n'est pas du tout le temps de ce type de réflexion, et ce n'est que par des moments de chance qu'on arrive à poser ce type de questions un peu plus profondément.
Hélène ?
Il y avait aussi cette idée de l'architecture de Haussmann qui finalement avait apporté la modernité dans Paris, mais avait éradiqué toutes les possibilités de rencontres pour ne pas avoir des foyers de rébellion comme ça qui se rencontraient.
Haussmann a quand même bien sauvé Paris, parce que si c'était arrivé 50 ans plus tard, on pourrait imaginer que Paris aurait été beaucoup plus dénaturé. Mais il est certain que ce Paris haussmannien qu'on voit comme c'était un Paris éternel, s'est fondé sur des destructions très fortes. Baudelaire et bien d'autres pleuraient l'ancien Paris. Et en même temps, peut-être qu'il y a eu une ruse de la raison qui fait que les espaces qui étaient considérés comme presque inhabitables, les grands boulevards, etc., ont trouvé au XXe siècle, au XXIe siècle, une échelle plus juste. En tout cas, c'était un urbanisme qui était pensé sûrement avec une certaine violence, mais aussi avec beaucoup d'intelligence. Et aujourd'hui, on rêve, pour le Grand Paris ou pour d'autres très grandes villes, d'une sorte
d'Haussmann.
De vision, avec les défauts que ça peut avoir, mais au moins une vraie pensée
une vision,
de la ville.
Une pensée.
Oui, avec la capacité justement de au vu de tout ce qu'on sait, de garder le sens du mystère, de l'étrangeté, de la beauté, et pas seulement de l'efficacité, de la rationalité, parce que c'est ça qui pour l'instant nous tue.
Cette quête de sens, de profondeur, de mystère, de poésie, aussi ces couches de mémoire et de dessin qu'il y a dans vos travaux, est-ce que c'est aussi une façon de rappeler ou bien de pousser les lecteurs à s'offrir de la complexité, est-ce qu'il y a une exigence chez vous envers vos lecteurs?
Il y a une exigence déjà, en tout cas, au moment de la réalisation, puis comme je le disais tout à l'heure, l'idée que le livre puisse être relu, revu, peut-être pas relu linéairement de bout en bout, mais qu'on s'arrête, qu'on y voyage. Et je pense que la complexité, de toute façon, elle est dans nos vies. Nous vivons simultanément beaucoup de choses. Nous sommes dans la mémoire et dans la projection. Nous sommes dans l'intime et dans l'universel. Et donc, une histoire essaye de refléter ça, d'être tantôt à hauteur d'individus, tantôt à l'échelle de toute une ville. Après tout, ce sont des choses très normales et qui résonnent pour chacun de nous.
Mais maintenant, votre question me touche parce que je trouve que nos lecteurs, on essaie d'être à la hauteur parfois de nos lecteurs, parce qu'on est parfois troublé de la qualité du regard et de l'histoire qui se sont racontées dans nos livres, qui parfois est encore plus intéressante et plus par certains côtés qui nous motive encore à aller plus loin. Je trouve que les lecteurs, c'est formidable ce qu'ils se découvrent.
Pendant des années, on a reçu des courriers très abondants qui prolongeaient nos fictions avec des dessins, des images, des récits. Aujourd'hui, ça se passe beaucoup sur Internet. Et vous citiez le site altaplana.be qui est animé depuis des années par un amateur, par un passionné. Il n'y a aucune économie dans ce projet, c'est vraiment un fan. Sauf que lui, il a créé un réseau. Oui. Il s'est mis en relation avec des tas de lecteurs qui travaillent dans plusieurs langues.
Le site est en trois langues.
Qui envoient des images, incroyable. Qui ont créé un dictionnaire des sites obscurs auxquels il m'arrive de me référer parce qu'il y a des choses. Je me dis, est-ce que je n'ai pas déjà utilisé ce prénom-là? Hop, je vérifie dans le dictionnaire des sites obscurs. Et donc là, on voit une création. C'est pas la fanfiction qui s'emparerait pour faire un récit complet. C'est des gens qui s'insinuent dans les récits.
C'est la carte du
qui
monde,
nous les révèlent.
Ouais. Et c'est une copie rendue vraie.
Qui les prolonge vraiment. Et c'est magnifique. Ouais. Et ça, c'est un cadeau. Ça, c'est vraiment, parce que On n'aurait jamais pu faire ça. Et si notre éditeur disait « Nous allons créer un grand site pour mettre en valeur cet univers imaginaire », c'est infaisable.
C'est impossible.
Ouais. C'est infaisable, d'abord parce qu'il faut l'âme, le goût, le désir pour le faire, et aussi qu'économiquement, ça serait impossible. Alors que là, en agglomérant des choses venues d'un peu partout, une chose qui arrive du Brésil, une autre du Japon... Ce Hollandais qui fait ça depuis beaucoup, beaucoup d'années, mais il faut lui rendre hommage parce que c'est vraiment quelqu'un qui nous dit que tout ce travail n'est pas fait en vain. Quoi. Il nous montre qu'il y a une sorte de solidité, de prolongement dans l'imaginaire de ceux qui nous lisent.
Et puis ça va aussi beaucoup plus loin chez certains de vos fans, notamment pour la langue anglaise, puisque vous aviez un éditeur britannique qui avait édité Les Cités Obscures jusqu'au volume 5, et il avait vendu tout son stock, et il n'avait pas édité le volume 6. Et des gens se sont dit, mais c'est pas possible, on doit avoir ce volume 6. Donc ils ont lancé un financement participatif sur Internet pour le faire traduire, ils ont réussi à le faire publier. Enfin, il y a vraiment une agglomération de gens, une communauté qui est extrêmement forte autour des Cités Obscures.
Oui, c'est sans doute ce qui nous, d'ailleurs, nous oblige à être très rigoureux et exigeants encore. C'est qu'il faut tenir cette tension-là, parce qu'il nous loupe pas aussi. Mmh. C'est ça qui est bien, c'est qu'il nous attend au tournant.
Oui, et dans des pays qui avaient une tradition de bande dessinée beaucoup plus faible, comme la Russie, à l'époque de l'URSS, il n'y a pas de bande dessinée du tout, mais il y a des gens qui ont voulu le faire. Alors c'était amusant parce que le premier album qu'ils ont traduit, c'est L'Enfant penché, dont la couleur est par moments très proche des paysages russes, où on retrouve des lieux proches de Saint-Pétersbourg et d'autres villes russes. Alors c'est le premier album qui est entré, et puis on a été très heureux de voir qu'après cet album, un autre se faisait, et que des gens qui n'avaient pas grandi avec Tintin, Spirou, Black et Mortimer ou Blueberry pouvaient entrer malgré tout dans un univers de bande dessinée, que des artistes là-bas nous montraient leur travail et arrivent finalement à trouver dans ce langage simple et accessible à tous de la bande dessinée, ce langage né avec Töpffer dans les années 1830, et bien qu'autant d'Internet et des jeux vidéo, on peut encore trouver une pertinence dans le médium bande dessinée. Ça, je crois que c'est aussi une chose très encourageante. Ce n'est pas un monde où on est obligé de commencer avec des financements considérables. C'est un monde où la main de l'artiste, la main qui écrit, la main qui dessine, le papier, le noir et blanc ou la couleur peuvent encore faire quelque chose qui a une pertinence.
Mais vous étiez quand même un peu des ovnis à l'époque où vous avez commencé Les Cités Obscures. Même si on essayait beaucoup de choses dans la bande dessinée, on l'a raconté tout à l'heure, mais franchement...
Bah, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression parce que...
C'est un regard a posteriori peut-être que j'ai...
À Métal Hurlant, il y avait quand même pas mal de...
C'est vrai que c'était Métal Hurlant, c'est vrai.
Je vous assure, il y avait quand même quelques drôles de numéros, là.
Et Meubius, par exemple, en matière d'ovnis, c'était pas mal. Et Drouillet...
Voilà. Et c'était d'ailleurs tellement joyeux. Mais je me rappelle quand même de soirées assez étranges où j'avais plutôt l'impression d'être un peu le belge de service.
Le normal de la rédaction.
Oui. Ouais.
Et mais, beaucoup d'hommes.
Oui, alors là, ça fait quand même l'évolution la plus favorable qu'il y a eu dans bande dessinée. C'est justement à quel point elle est ouverte à la création féminine. C'était un petit peu déplorable. Mais ça, c'est bien. Ça commence à se rééquilibrer. Il y a encore du travail à faire.
L'idée de roman graphique, le passage à l'autobiographie, ont amené notamment beaucoup de femmes, non seulement parmi les créatrices, mais aussi plus de lectrices. Et il y a quelque chose qui a bougé. On voit vraiment qu'aujourd'hui, au fond, tous les domaines, tous les tons, tous les registres, tous les styles graphiques peuvent être abordés. On a chacun nos préférences, mais il est certain que cette ouverture du domaine, en même temps que l'ouverture internationale, où les bandes dessinées japonaises sont arrivées, où on a vu le graphic novel américain arriver, mais aussi des bandes dessinées venues de Singapour, venues d'Australie, de Nouvelle-Zélande, etc. Ça a créé un paysage très ouvert. Nous, au fond, on était dans une époque où la création française et franco-belge était centrale. Et les autres mondes étaient lointains. Aujourd'hui, il se passe un univers beaucoup plus international, mais pas dans le sens d'un nivellement ou d'une globalisation, mais vraiment dans le sens d'une grande diversité. C'est une mondialisation qui s'est faite par les marges, par les indépendants, par des nouveaux éditeurs, par de nouveaux styles d'auteurs. Et ça a apporté à la bande dessinée, je crois, une vraie vitalité. Et ça lui amène, j'espère, de nouveaux lecteurs, de nouvelles lectrices qui sont aussi des passionnés de théâtre, de cinéma, de musique et qui trouvent dans la bande dessinée, à côté de la littérature, à côté de d'autres domaines, une nourriture narrative forte. Il n'y a plus cette idée, au fond,
d'une légitimation qu'il faudrait la bande dessinée est-elle un para, une paralittérature, un sous-art, un machin. Non, je crois qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des chefs-d'œuvre. Il y a une part de médiocrité, comme il y a une part de médiocrité au cinéma dans ou dans le roman.
Bien sûr. Mais il y a quand même cette facilité incroyable qu'a la bande dessinée, avec très très peu de moyens, tout de suite de raconter des choses et d'agréger des communautés. C'est plus compliqué au cinéma, évidemment, et c'est encore une autre économie pour le roman.
Oui, mais surtout, la bande dessinée doit s'intéresser à ce qui fait sa particularité, justement, de ne pas courir après le cinéma, de ne pas courir après le jeu vidéo, mais de s'intéresser à ce qui fait... où c'est seulement là qu'on peut raconter cette histoire. Ce qui est une de nos préoccupations premières, c'est est-ce que ça ne fait qu'une bande dessinée ? Parce que quand on nous dit « Ah, j'en verrais bien ça en film », ce n'est pas toujours pour nous un compliment. Ce qui pour nous est un compliment, c'est quand c'est inadaptable. C'est quand c'est vraiment qu'on est... Alors là, on se dit « Tiens, peut-être qu'on est allé au cœur de l'écriture de ce... »
Prenez Maus de Spiegelman, qui est reconnu comme un des chefs-d'œuvre du roman graphique. Ben Maus contourne le problème de la représentation de la Shoah. C'est une réponse aussi importante que le film de Claude Lanzmann, Shoah, justement, qui dit « On est dans l'après-coup, on filme les survivants et les lieux vides tels qu'ils sont aujourd'hui. » Avec Maus, Spiegelman produit un récit animalier, arrive à mettre en scène l'insoutenable de l'histoire de son père, en utilisant pleinement la chose. Et il y a eu des dizaines de propositions faites à Spiegelman de faire un film. Et il disait,
mais ce serait absurde.
Mais ça anéantirait tout mon projet, toute forme d'éthique disparaîtrait. Et cette bande dessinée, elle est immortelle et admirable parce qu'elle utilise pleinement ce langage avec un dessin très simple. Et je crois que toutes les grandes réussites en bande dessinée, Tintin aussi, après tout, malgré tout le talent de Spielberg et les films qu'il y avait eu avant lui, et les dessins animés, Tintin, ça reste éminemment... un éloge de la bande dessinée. Ça reste une manière de faire vivre ce médium tellement Hergé y croyait. Et chaque fois qu'on le transpose, on perd plus qu'on ne gagne.
Et comme le disent souvent les enfants, il n'a pas la même voix que dans la BD. Et ça, c'est un très grand classique qu'on peut répéter pour toutes les bandes dessinées.
Et qui est vrai.
Adapté au cinéma. Et qui est vrai. Chacun a sa voix. François Skuyten, Benoît Peters, merci d'être venu nous voir. Je rappelle que vous serez demain en conférence à la Maison d'ailleurs à Yverdon à l'occasion de la parution du troisième livre de l'intégrale des Cités Obscures. Et c'est à 18h. Merci beaucoup et à très bientôt.
Merci. Merci à vous.